Bonjour et bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Notre message aujourd'hui, vaincre ton pire ennemi. On va t'aider. On va vous aider aujourd'hui à réaliser quel est notre pire ennemi spirituellement et à le renverser. Alors, je veux souhaiter la bienvenue aujourd'hui à Nouvelle Vie sur tous nos sites, une église sur plusieurs sites, sur 7 sites en fait maintenant. Nouvelle Vie à Longueuil, La Prairie, Nueva Vida, à Sept-Îles. Mais permettez-moi de donner une chaleureuse et encore plus personnelle bienvenue, un mot de bienvenue à deux nouveaux sites, Église Nouvelle Vie à Châteauguay, Église Nouvelle Vie à Charlevoix. Bienvenue, vous faites partie de la famille. On est tellement heureux de vous servir et de bâtir le royaume de Dieu avec vous. Et un mot d'encouragement à Nouvelle Vie, à Drummondville. Il y a plusieurs centaines de personnes maintenant, depuis plusieurs mois, qui sont rassemblées avec le pasteur David Mondor, son épouse Lison, pour Nouvelle Vie à Drummondville. On a une salle magnifique déjà, où on se rencontre régulièrement. Mais nous sommes en ce moment en train de faire des grands travaux de rénovation, d'aménagement pour une salle qui va être notre salle permanente pour les prochaines années. Alors, il y a plein de travaux qui sont en cours pour un grand sanctuaire de plusieurs centaines de places. Les classes pour les enfants, les bureaux, la bureautique, l'informatique, système de son, sono, éclairage, les gicleurs, tout le reste. Mais nous croyons tellement à Nouvelle Vie, à Drummondville. Alors, merci aux chrétiens, aux croyants généreux de Nouvelle Vie sur tous nos sites qui sèment et investissent dans la ville de Drummondville. Nous croyons pour une église de grand impact. Très bientôt, on va entrer dans des nouveaux locaux, des nouveaux bâtiments et bâtir le royaume de Dieu ensemble. Et nous n'oublions pas non plus de vous souhaiter la bienvenue à vous, la grande famille de Nouvelle Vie en ligne maintenant. Plus de 86 000 abonnés à notre chaîne YouTube. Objectif 100 000 d'ici la fin de l'année. La famille s'agrandit et bienvenue à vous partout dans la francophonie. Le message aujourd'hui coïncide dans notre vie d'église avec le lancement de notre session d'automne de ce que nous appelons nos groupes Nouvelle Vie. Nos groupes Nouvelle Vie, depuis le début de la pandémie, sont en Zoom et centaines de personnes qui se réunissent en Zoom à chaque semaine à différentes fréquences sur tous nos sites. Tout ce que nous faisons à Nouvelle Vie repose et fondé sur notre passion pour votre croissance. Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance, votre croissance dans chaque aspect de votre vie à travers ce que nous appelons les 3 C Nouvelle Vie. Les 3 C de votre croissance, connaître, connecter et contribuer. Connaître, connecter et contribuer. Tout ce qu'on fait à Nouvelle Vie repose sur cette passion de vous voir grandir, croissance, connaître, connecter et contribuer, connaître Dieu, connaître ses plans, sa parole, sa volonté, sa plénitude, sa personne, tout ce qu'il a préparé pour vous, vous connaître vous-même, connaître vos défis, mais connaître aussi votre potentiel, tout ce que Dieu a préparé pour vous, tout ce qu'il vous appelle à accomplir, qui vous pouvez devenir en lui, connaître aussi notre mission, connaître notre destinée, notre mission ensemble, connecter, connaître, connecter, contribuer, connecter avec Dieu. Connecter avec notre communauté, connecter avec les gens autour de nous, avec d'autres croyants, la communauté, la communion fraternelle. Impossible d'accomplir le plan de Dieu sans ce koinonia, cette connexion les uns les autres, 54 fois dans le Nouveau Testament, et ça s'incarne, ça se vit de manière extraordinaire dans les groupes, dans ces groupes en Zoom, connaître, connecter et aussi contribuer. Aucun passager, aucun consommateur seulement, aucun touriste qui va, c'est un spectateur dans le royaume de Dieu. Chaque personne est appelée à contribuer. Chaque personne est appelée à contribuer à communiquer quelque chose, à contribuer dans la vie des autres avec son temps, avec ses talents, avec ses capacités, avec ses ressources, avec son témoignage, avec ses expériences, même avec ses souffrances et épreuves passées. Nous sommes appelés à connaître, connecter et à contribuer. C'est les 3 C Nouvelle Vie qui s'incarnent dans tout ce que nous faisons, mais particulièrement dans cette vie de groupe. La vision biblique, lorsque vous regardez à l'Église, original dans les Actes des Apôtres, la vision biblique est pour une église qui était dans le temple et dans les maisons. Il y a dans la célébration à l'Église en grand nombre et la communauté, le ensemble. Cette dynamique, on pourrait le dire de cette façon, en chaise, assis sur nos chaises à l'Église ou en présentiel ou en ligne, mais aussi en cercle, cette dynamique de face à face, ensemble, en rangée et en rond pour connaître, connecter et contribuer. Avez-vous remarqué comment le vocabulaire, je réfléchissais à ça récemment, comment le vocabulaire récent des médias sociaux a dévalorisé, dévalué salement, diminué, dilué le sens, la valeur et la profondeur des mots de l'expérience humaine, relationnelle et spirituelle que Dieu désire que nous puissions avoir les uns avec les autres dans son plan pour nous. Il y a toutes sortes de mots qui sont tellement communs maintenant, mais qui peuvent devenir tellement dévalués. Même le mot « connecté ». Le mot connexion, nos trois C, c'est connaître, connecter, contribuer. Mais le mot connexion, on est obsédé, préoccupé par notre connexion Wi-Fi, Internet. Alors, une des questions fondamentales pour toi en cette rentrée, en ce début d'automne 2021, c'est que, question de Dieu pour toi, comment est ta connexion? En quel état est ta connexion. Ta connexion, on est obsédé par nos connexions Internet, mais la connexion de mon âme avec Dieu, de mon cœur avec Dieu, connexion avec sa parole, avec sa présence, avec son peuple, avec ses plans pour ma vie. Pensez-y un instant à la dévaluation de l'intention divine, des choses qui sont nobles, qui sont immenses, qui sont réduites à travers un vocabulaire qu'on utilise à chaque jour dans les médias sociaux. La connexion, un ami. J'ai tant d'amis Facebook. Croyez-moi, l'expérience biblique de l'amitié est bien au-delà de combien est-ce que j'ai d'amis Facebook. Partager. Il y a tout un enseignement biblique sur le partage, koinonia, bien au-delà de j'ai partagé une recette ou j'ai partagé une vidéo d'un petit chat. Un ami, partager. Des expressions profondes bibliques de tellement immense de signification. J'aime, j'adore. On envoie une vidéo à quelqu'un, j'adore, j'aime. On se rencontre à 5 heures cet après-midi, j'aime, j'adore. Il y a une adoration, une dimension d'adoration, d'amour, de connexion, de partage que Dieu désire produire et développer dans notre vie, qui s'exprime de manière extraordinaire à travers ces groupes Nouvelle Vie en Zoom. Notre vision des groupes Nouvelle Vie, on a eu plus de 200 groupes, plus de 2000 personnes qui se réunissaient en groupe d'une manière régulière. Notre vision en est une pour 300 groupes en Zoom à Nouvelle Vie sur tous nos sites cet automne en 2020 et 2021 de 200 aller jusqu'à 300 groupes maintenant. Et si vous voulez de l'info, j'invite tout le monde qui a allé sur tout simplement à nouvellevie.com/groupe. nouvellevie.com/groupe pour pouvoir avoir des informations sur comment vous pouvez connecter. Nous avons des dizaines et dizaines de groupes, une variété de groupes extraordinaires. Des groupes pour tous les âges. Des groupes d'enfants qui connectent, de jeunes, d'adolescents, de jeunes adultes. Des groupes en connexion d'hommes d'affaires, d'hommes de femmes d'affaires, d'hommes de femmes, de couples pour les personnes du bel âge qui connectent d'une manière extraordinaire ensemble pour les nouveaux, pour ceux qui traversent et pour ceux qui veulent vaincre, des groupes de connexion, d'encouragement, ceux qui veulent vaincre des dépendances, pour des gens d'affaires qui développent leur entreprise et bénéficient de l'expérience des uns des autres, pour ceux qui ont traversé une épreuve, une dépression, un divorce, des crises d'anxiété, pour des centaines et centaines de personnes qui, à chaque semaine, revisitent, partagent, digèrent ensemble, incarnent ensemble, s'approprient ensemble, vont s'appliquer ensemble les messages qui sont apportés les dimanches à Nouvelle Vie. Et le message d'aujourd'hui est plus qu'un message, en fait. Ça vient directement de mon cœur, et je crois, du cœur de Dieu, mon cœur pastoral. Et ce message trouve ses racines dans ma plus grande préoccupation et prière pour vous depuis le début de cette pandémie. Le titre du message, c'est « Vaincre ton pire ennemi ». Et écoutez-le comme un avertissement, comme un appel du cœur de Dieu pour chacun d'entre nous, avec aussi cette question. Est-ce que tu connais quel est ton pire ennemi spirituellement? Connaître, c'est quoi mon pire ennemi spirituellement? Depuis le début de cette pandémie, on entend beaucoup les expressions distanciation sociale, la dynamique de distanciation ou de confinement. mais notre pire ennemi spirituellement est la distanciation ou le confinement spirituel et relationnel. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme théologique, le péché originel, trouvé dans la Genèse, chapitre 3. Mais sachez qu'avant le péché originel, il y avait le piège originel. Et le piège originel, dans Genèse 2, 18, le Seigneur dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, que l'être humain soit seul. » Dieu a créé, la création est magnifique, cela est bon, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le premier problème et pire piège de l'être humain, avant même la tentation et la chute avec l'ennemi, c'est le piège de l'isolement, de la solitude. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que la Bible enseigne que l'isolement est notre pire ennemi? Parce que l'isolement social et spirituel augmente et multiplie de façon exponentielle tous nos autres défis et problèmes. Passez un instant. Tout est pire, tout est magnifié, tout est empiré, tout est de manière exponentielle rendu plus difficile par l'isolement. Le péché, la peur, l'anxiété, les attaques spirituelles, les attaques sur notre mariage, notre couple, la colère, les dépendances, les frustrations, l'orgueil, l'incrédulité, l'aveuglement, l'endurcissement, tout est amplifié, est rendu pire et devient notre pire ennemi parce qu'il empire tous les autres défis et combats de nos vies. L'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 8, Salomon, qui était à son époque l'homme le plus riche du monde, mais aussi à une certaine époque de sa vie, un homme de sagesse, la sagesse de Salomon, l'homme le plus sage du monde, lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, il parle de lui-même. C'est vraiment autobiographique. Il dit ceci dans Ecclésiaste 4:8. « J'ai encore vu une autre futilité sous le soleil. Voici un homme seul, avec personne proche de lui. Il n'a ni fils ni frère. Il n'a jamais arrêté de travailler. Mais ses yeux ne sont jamais satisfaits, jamais rassasiés par toutes ses richesses et son tourment n'a pas de fin. » Salomon savait qu'il y avait une grande différence, un gouffre entre avoir un entourage et vivre un vrai ensemble. Il comprenait la différence entre une vie de consommation, mais le vide si elle est sans communion, sans communauté, sans connaître, connecté et sans contribuer dans la vie l'un de l'autre. Il connaissait la différence, le vide entre la richesse lorsqu'il n'y a pas de relation, les possessions, la sécurité, sans personne de proche, spirituellement. Le travail intense, mais avec un tourment intérieur. La vie avec à vitesse grand V d'activité, sans de vraies amitiés. Et notre pire ennemi est l'isolement, non seulement parce qu'il amplifie nos problèmes, mais parce que le ensemble, la communion, les relations, la communauté, le partage, le connaître, connecter et contribuer, non seulement peut atténuer tous nos problèmes, mais il contribue à renverser chacun de nos ennemis. C'est le plan de Dieu, c'est la force multiplicatrice pour nous approprier les victoires de Dieu dans notre vie. La culture nous a bombardés avec la notion que si je suis indépendant, je suis indépendant financièrement, matériellement, économiquement, relationnellement, je serai heureux. Mais Dieu dit, je ne vous ai pas créé pour l'indépendance, dans l'isolement ou la solitude, mais pour l'interdépendance, l'interaction sociale et spirituelle. Écoutez-moi bien, Dieu nous a créés pour la communauté, pour échanger, pour partager, pour porter les uns avec les autres. Et sans cette dynamique dans notre vie, je ne pourrai jamais accomplir la pleine destinée de Dieu sur ma vie. Et en fait, je suis en danger. Alors aujourd'hui, écoutez-moi un moment, peut-être qu'il y en a d'entre vous, je sais que certains, un message de Pasteur Claude sur le koinonia, sur la communauté, sur les groupes, baissez votre garde, défroncez les sourcils, décroisez les bras spirituellement, arrêtez de soupirer, arrêtez le roulement des yeux, ouvrez votre cœur un instant, parce que ce message du besoin qu'on a les uns des autres est absolument essentiel, mais peut-être que plus que jamais, dans cette pandémie où toutes les problématiques humaines sont en hausse, affolantes et catastrophiques. Idéations suicidaires sont en hausse, anxiété, consommation d'alcool, de cannabis, de calmants, hausse de violence conjugale, hausse de tensions sociales et raciales, de division. Je le répète, c'est le cœur du message aujourd'hui. L'isolement est notre pire ennemi. Et vous vous posez la question de Dieu que vous entendez aujourd'hui, c'est comment se porte ta connexion avec Dieu? Et est-ce que tu réalises à quel point tu as besoin des autres et les autres ont besoin de toi? Et nous allons regarder aujourd'hui, alors on va écouter Jésus, l'enseignement de Jésus, mais à un moment tellement crucial des évangiles. Vous connaissez la séquence, la crucifixion, le vendredi saint, la crucifixion et la résurrection le dimanche après 3 ans de son ministère terrestre. Mais là, on se retrouve dans l'évangile de Jean et on va regarder les chapitres 13 à 17 où c'est la dernière conversation, c'est le jeudi soir. C'est le dernier souper de Jésus. Ils sont là pour commémorer la Pâque. C'est une célébration très intime. Il est avec ses disciples et il commémore la sortie, la libération que Dieu avait donnée à son peuple d'Égypte. Et là, ils sont ensemble. Et nous avons dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, qui sont semblables, juste quelques paragraphes sur cette conversation-là. Mais l'apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous donne une extraordinaire. Il nous donne un regard extraordinaire dans le message de Jésus avec ses disciples. 5 chapitres. Il y a 5 chapitres dans ce texte où on retrouve la conversation en entier. Ce qui a pris place avant le repas, pendant le repas, après le repas. Et il y a dans ces 5 chapitres, il y a des principes absolument essentiels de connexion pour vaincre notre pire ennemi. Et le repas commence, le texte commence dans Jean 13, avec ce qui était coutume à l'époque. Ils ont lavé les pieds. Lorsqu'on entrait dans une maison, c'était coutume avec la poussière accumulée sur les pieds. C'était la plus normale des hospitalités. Mais personne n'a lavé les pieds de Jésus, c'est à l'œuvre des disciples. Alors Jésus se lève, le maître parmi eux, le Messie, mais il prend serviette et bassine et eau, et il va laver les pieds des disciples. Et là, il y a un échange qui est fascinant. Jean chapitre 13, verset 8, Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Il y a un portrait spirituel important et tellement actuel dans cet échange. Il représente le désir de Dieu pour une œuvre en profondeur. Je vais expliquer laver les pieds dans un instant. Mais aussi notre dualité, notre dureté, et même une décision de refus ou de résistance à cette œuvre en profondeur qui conduit à nos défaites et même à la destruction de notre destinée. L'apôtre Pierre, Jésus dit, je vais te laver les pieds. Et l'apôtre Pierre dit, non. Tu ne laveras pas les pieds. J'aime tes enseignements. Tu es le maître, tu es le Seigneur. J'aime ta parole, j'aime ton pardon, j'aime les miracles. Tu es mon Dieu. J'aime ton aide, ta fidélité, ta présence. Mais je ne veux pas te donner accès à ce qui est sale, à ce qui est laid dans ma vie, à ce que j'ai ramassé sur le chemin de la vie, à ce qui ne sent pas très bon dans ma vie. Tu es mon Dieu, mais je ne veux pas te donner accès. Les pieds dans la Bible parlent de la direction dans nos vies, nos décisions, nos choix, notre marche avec Dieu. L'apôtre Paul dira même, ils sont beaux les pieds, on ne parle pas des pieds physiques, figurativement. Ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent l'Évangile, ceux qui communiquent la paix. Non, les pieds parlent de notre direction, de comment nous marchons, nos priorités. L'apôtre Pierre dit en fait, je veux marcher avec toi, je veux être béni. En termes modernes, je vais écouter des messages en ligne ou je vais aller à l'église et je vais écouter du worship. Je veux être béni, être protégé. Je veux être pardonné. Peut-être que à notre époque, c'est ce christianisme qui dit je veux être avec le Seigneur, mais je veux argumenter les mesures sanitaires, le passeport vaccinal, les signes de la fin des temps. Mais je ne veux pas te donner accès à venir en profondeur dans ma vie, à venir laver les choses moins belles, les choses moins qui sentent moins bon, les choses que j'ai accumulées sur la poussière du péché, de la chair, sur le chemin de la vie. Pierre dit, jamais tu ne me laveras les pieds, mais la réponse de Jésus est hallucinante. Si je ne te lave pas les pieds, si tu ne me donnes pas cet accès, tu n'auras pas de part avec moi. Il n'y a qu'une part de moi, de mon œuvre de transformation, de ma richesse, de mon flot, de ma vie, de mon esprit en toi qui va être perdu. Alors la question de Dieu, c'est es-tu prêt à laisser Jésus entrer, nettoyer et faire une œuvre en profondeur? Es-tu prêt à entendre quels moyens le Seigneur veut utiliser? Quels moyens il veut utiliser pour faire cette œuvre dans nos vies? Dans les chapitres 13, 14, 15, 16 et 17, dans les cinq chapitres, il y a plusieurs principes. Cette dernière conversation ultime jusqu'à Gethsémané, juste avant la croix, chaque chapitre développe un thème sur l'importance des relations authentiques, saines et tellement bénéfiques, et sur les dangers de l'isolement et pourquoi notre pire ennemi est l'isolement et pourquoi nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin des autres et les autres ont besoin de moi. Et le premier principe, on va regarder trois principes ensemble. Le premier, c'est que j'ai besoin de quelqu'un pour m'entourer quand je traverse une épreuve. Jésus commence dans Jean 13 cette conversation de la Pâque juste avant la crucifixion en disant, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements et se remit à table, il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur, le maître, vous devez aussi, manquez pas ça, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » On ne parle pas de symbolique seulement de lavage de pieds extérieur. On parle d'une œuvre de connexion, une œuvre en profondeur, une œuvre d'échange, de partage où nous grandissons, où Dieu se sert les uns des autres pour faire son œuvre dans nos vies. « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et termine ce passage en disant, si vous savez ces choses, c'est une chose de savoir, mais si vous savez ces choses et vous allez être bénis, pourvu que vous les pratiquiez. J'ai besoin de quelqu'un pour m'entourer quand je traverse une épreuve. Jésus dit, oui, je suis votre maître, votre seigneur, mais votre marche avec moi, elle est incomplète jusqu'à ce que vous arriviez à ouvrir vos vies à ce chemin, ces pieds qui se sont lavés mutuellement, cette œuvre où nous contribuons à une somme instrumentée par Dieu, utilisée par Dieu pour cette œuvre en profondeur dans nos vies. Et nous refusons l'isolement dans toutes les saisons de nos vies, mais particulièrement dans les épreuves. Depuis les 28 ans de Nouvelle Vie, c'est un fondement de l'Église. On a commencé les groupes dès le début, mais jamais, jamais plus vrai que depuis ces dernières année et demie, 15 mois, 16 mois, 17 mois de pandémie. Depuis le début de la pandémie, un des miracles, un des paradoxes miraculeux de Dieu pendant la pandémie à Nouvelle Vie, c'est que le nombre de personnes qui se sont joints à un groupe et expérimenté cette œuvre en profondeur à travers les épreuves qu'on traverse tous ensemble a explosé. Parce que maintenant, pendant cette saison encore, que les réunions sont en Zoom, il y a toute une porte d'entrée extraordinaire. Dieu change le mal en bien. Parce que les groupes en Zoom sont une entrée magnifique. C'est pour des gens qui ne pouvaient pas aller à un groupe, pour des gens qui revenaient du travail, de se déplacer, aller chez quelqu'un, revenir, qui c'était même pas concevable pour eux. On a des enfants, le voyagement, le retard, les enfants, la gardienne, tout ça. Maintenant, simplement se branchant en ligne, simplement en se joignant à un Zoom. Et franchement, pour plusieurs personnes, c'est moins intimidant. C'est moins intimidant d'aller dans un groupe que je ne connais pas, où là, je suis en Zoom et des centaines découvrent cette œuvre et ces rencontres qui sont, bien sûr, sécuritaires, sanitaires, mais aussi en Zoom pour un soutien sincère et profondément spirituel à travers nos épreuves. L'Ecclésiaste le dit de cette façon, Ecclésiaste 4:10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils recevront une grande richesse pour ce qu'ils traversent ensemble. Il y a une richesse qu'on peut découvrir même dans nos épreuves lorsqu'on la traverse avec quelqu'un. Car si un tombe, l'autre l'aide et le relève. C'est le désir de Dieu, c'est le plan de Dieu. Mais malheur à celui ou à celle qui est seul et qui tombe, qui traverse son épreuve sans avoir un autre ou une autre pour le relever. La Bible n'est pas négative ou pessimiste, elle est réaliste. Nous allons traverser des épreuves dans nos vies. Personne dans le cœur de Dieu, personne ne devrait traverser une épreuve seule. Personne ne devrait traverser cette pandémie seul. Personne ne devrait traverser quelle que soit l'épreuve. L'épreuve dans ma santé, l'épreuve à mon travail, tes études qui sont retardées par cette pandémie, l'épreuve d'une dépendance, l'épreuve d'une faillite, d'une perte d'emploi, d'une maladie, d'un deuil, d'une crise dans ton couple ou dans ta famille ou avec tes enfants qui sont tout jeunes ou tes petits-enfants. Quelle que soit la sphère de ta vie, si un tombe, tu traverses une épreuve, l'autre l'aide et le relève. C'est le cœur de nos groupes. Romains 12, 13 à 15 le dit de cette façon. « Ne vous croyez pas au-dessus de tout. Ne rendez pas le mal pour le mal. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ouvrez vos cœurs et vos maisons. Portez les fardeaux les uns des autres et manifestez l'hospitalité. » Même en Zoom, j'ouvre ma vie. Je suis prêt à servir, je suis prêt à participer, je suis prêt à animer certains d'entre vous qui sont appelés à le faire. Un groupe en Zoom, ouvrir ma vie. Et ce verset, court verset, révèle plusieurs dynamiques, plusieurs qualités spirituelles qui peuvent seulement être développé dans le relationnel, dans un Zoom, dans un koinonia, dans une communion fraternelle, et non simplement à écouter des prédications en ligne ou du worship, ou même de venir dans un lieu, dans une grande salle. Il y a plusieurs, dans un lieu public ou dans une église pour assister à une réunion, ce qui est dans le cœur de Dieu essentiel. N'abandonnez pas l'assemblée, mais il y a quelque chose une profondeur qui est acquise ici. Dans le texte qu'on vient de lire, il y a une dimension d'humilité. Ne te crois pas au-dessus de tout ça. Je ne crois pas que tu as besoin de personne. Il y a une introspection. Il y a un apprentissage pratique de comment ne pas rendre le mal pour le mal. Comment changer le mal en bien à travers les histoires et témoignages et prières et soutien des autres. Il y a la dynamique d'empathie, d'écoute, d'intérêt pour l'autre. De compassion, de sensibilité, d'ouverture. La capacité d'être fortifié. Et de résister à notre ennemi, de traverser notre épreuve et même d'en tirer une richesse. 1 Corinthiens 12, 26. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Et si une partie du corps est bénie et trouve faveur, toutes les autres se réjouissent avec elle. C'est le portrait d'une communauté qui porte ensemble. C'est l'essence de Nouvelle Vie. Avec l'équipe de soins pastoraux qui est là, vous savez, à Nouvelle Vie, il y a un pasteur de garde à chaque jour. Vous appelez au bout du fil, il y a quelqu'un qui est là tout le temps. Tout chaque département qui s'occupe des enfants, des jeunes, des adultes, de tous les âges, toutes les sphères et moments et conditions de vie. Pendant la pandémie, on a fait des milliers d'appels à tous les mois auprès des gens. Mais il y a quelque chose qui est irremplaçable. Et les groupes sont puissants, les groupes Nouvelle Vie, irremplaçables pour entourer des gens à travers leurs épreuves. Ou dans les groupes, on peut rire ensemble, prier ensemble, pleurer ensemble, porter ensemble, traverser ensemble, être fortifié ensemble. J'ai besoin de quelqu'un pour m'entourer quand je traverse une épreuve. Nous recevons à chaque semaine l'équipe de direction des groupes Nouvelle Vie, pasteur Jacques Toignon, Saint-Nepos-Hélène, toute leur équipe de dirigeants m'envoie et chaque groupe envoie des témoignages à chaque semaine, des témoignages comme celui-ci. J'ai besoin. Mon groupe a été une vraie bénédiction. Lorsque j'ai eu la COVID en février 2021, ils m'ont encouragé, prié pour moi, apporté la nourriture, supporté comme une famille. Lorsque je suis arrivé à Nouvelle Vie, je vivais une séparation et un changement d'église. J'étais dévasté. Je me suis inscrit à un groupe. Ils m'ont soutenu dans la prière, m'ont accueilli, m'ont aidé à trouver ma maison, m'ont aidé à déménager, m'ont aidé à reprendre vie. Le groupe a été là et est encore là dans mes épreuves sans jugement. Ils m'ont accueilli dans mon épreuve. J'ai tellement reçu, maintenant je suis prête à prendre un groupe car j'ai vu l'importance du groupe. Je vous en ai un autre. On en reçoit comme ça chaque semaine. Lorsque j'ai eu des problèmes avec ma vision, j'ai perdu la vue cet été. Mon groupe m'a supporté moralement. Je me suis senti abandonné de Dieu. Je lui ai demandé de venir me chercher parce que je ne trouvais pas de solution. Une sœur de mon groupe m'a téléphoné régulièrement pour prier avec moi, m'encourager, prendre de mes nouvelles. Elle m'a encouragé à ne pas écouter et laisser l'ennemi gagner sur mes pensées. Elle m'a donné des paroles de vie et mon groupe a prié et me soutient toujours dans la prière. C'est quelque chose qui m'a frappé dans ce témoignage, c'est qu'alors qu'elle vivait cette maladie, cette épreuve terrible de perte de vision de physique, elle a vu l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, le cœur de Dieu, l'Église, le corps de Christ. Elle l'a vu avec une profondeur et une dynamique qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Quelle que soit l'épreuve, j'ai besoin de quelqu'un pour m'entourer quand je traverse une épreuve. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film « 127 heures ». J'ai regardé un documentaire sur cette histoire vraie de Aaron Ralston, qui est un alpiniste chevronné, mais un solitaire, un expert, un athlète incroyable, mais un alpiniste solitaire, qui escaladait le Blue John Canyon en Utah. Il est tombé dans une paroi, dans une fissure, dans une paroi, et il se coince le bras. Il a été là pendant 6 jours et 5 nuits. Il se blesse, il se taillarde, il est déshydraté, et ultimement, pour se sauver la vie, il s'est amputé le bras. Et il y a une phrase qui est là dans son histoire qui m'a frappé. Il a dit, « Tout ce que j'avais besoin, c'est d'une personne, quelqu'un qui passe, une main qui aurait pu me relever et me sortir de là. » Lorsqu'on est seul, lorsqu'on vit nos épreuves isolées, on se taillarde, on se fait du mal. Et j'ai vu des destinées être amputées. J'ai vu des ministères, j'ai vu des vies, des familles, des couples être amputés parce que la personne souffrait, portait son épreuve seule. J'ai besoin de quelqu'un pour m'entourer quand je traverse l'épreuve. Et Jésus continue dans son enseignement. Le dernier souper, le jeudi soir, c'est avec ça qu'il culmine son message à ses disciples. Sa deuxième notion, c'est que j'ai besoin de quelqu'un pour m'encourager dans mes efforts. Au chapitre 13, première portion, chapitre 14, de la même conversation, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Les disciples sont découragés, ils sont abattus. Cette portion du souper est magnifique, elle est sainte, est tellement puissante, Jésus les encourage. Simplement lire, genre, ils sont troublés, ils sont angoissés, ils sont apeurés, et Jésus leur rappelle plein de choses. Verset 1 à 9, il leur rappelle le ciel, les promesses, la fidélité de Dieu. Jean 14, verset 10, il leur rappelle ses œuvres, ce que Jésus a fait pour eux, ce qu'il a fait, ce qu'ils ont vu. Il leur rappelle par la suite, à partir du verset 12, leur rappelle ce qu'ils vont accomplir, les œuvres qu'eux vont faire, leur destinée. Il leur rappelle dans la suite, verset 13 à 20, l'œuvre de l'Esprit, le Consolateur, la présence de Dieu, la fidélité de Dieu, les promesses de Dieu. C'est ça qui prend place dans un groupe. C'est ça qui prend place dans le koinonia. Ce rappel à travers les témoignages, cet encouragement dans nos efforts. Hébreux 3, 12 et 13 le dit de cette façon. Prenez donc garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, qui manque de foi ou qui s'éloigne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous. Communiquez-vous du courage mutuellement chaque jour pour qu'aucun de vous ne s'endurcisse par l'attrait trompeur du péché. Un cœur mauvais, ce n'est pas seulement un cœur hypocrite ou un cœur infidèle, un cœur méchant, un cœur de péché, un cœur qui est cruel ou menteur ou infidèle. Le cœur mauvais peut être simplement un cœur en mauvais état, un cœur blessé, un cœur offensé, un cœur qui traverse une saison de sécheresse, un cœur usé, un cœur qui a été déçu, un cœur qui vit un deuil, un cœur qui est découragé, qui est fatigué, qui est usé, un cœur impatient, un cœur qui est devenu colérique, un cœur ingrat, un cœur qui manque de foi, qui s'éloigne du Dieu vivant, qui est endurci et en danger d'être trompé par l'attrait, le mensonge trompeur du péché. Encouragé dans tous mes efforts. J'ai besoin de quelqu'un pour m'encourager dans mes efforts. Encourager, c'est élever l'esprit au-dessus de. Donner du courage à quelqu'un. L'aider, le stimuler à persévérer, à continuer, à avancer pour que personne ne s'endurcisse par l'attrait trompeur du péché. Pensez un instant, on a tous vécu ça. De traverser une saison difficile ou un moment, de la journée. C'est pas seulement quand je traverse une épreuve, c'est juste qu'en ce moment, ça va pas. Et juste comment une parole, quelqu'un qui arrive avec... Moi, j'essaie de faire ça à la journée longue. J'essaie de communiquer la vie par mes paroles continuellement. Parce que je l'ai vécu, parce que je sais à quel point c'est puissant, à quel point une parole d'encouragement peut. J'étais un moment avant abattu, et une parole d'encouragement, en Zoom ou en personne, une parole d'encouragement, et je suis prêt à traverser, à défoncer les murs et à gravir les montagnes pour Dieu. Celui qui court seul court vite. Celui qui court avec quelqu'un court plus loin. Il est encouragé. Et croyez-vous vraiment que vous êtes quelqu'un qui n'avez pas besoin de cette parole d'encouragement? Croyez-vous vraiment que vous n'avez pas une parole d'encouragement à communiquer à quelqu'un? Lorsqu'on parle, lorsqu'il dit « encouragez-vous » afin de ne pas être endurci, aveuglé par l'attrait trompeur du péché, Pensez-vous vraiment que ça ne peut pas vous arriver? Pensez-vous vraiment que vous êtes au-dessus de ça? L'attrait trompeur du péché qui se magnifie, se décuple dans l'isolement. Attention, l'isolement spirituel, ce n'est pas une question d'entourage, c'est pas une question, l'isolement spirituel qui est toxique et dangereux n'est pas une question de est-ce que tu es marié ou célibataire. Tu peux être marié et vivre un isolement terrible, tu peux être célibataire et avoir vraiment ce ensemble, avoir une communion réelle avec des gens autour de toi. C'est pas une question de combien d'amis tu as sur Facebook ou combien de gens sont autour de toi, ou même si tu vas à l'église, à quel point Dieu veut que nous soyons là, en présentiel à l'église, mais tu peux être assis pendant des années à l'église si tu n'ouvres jamais ta vie. Si tu n'ouvres jamais ton cœur, la Bible, tu es en danger. La Bible, la parole de Dieu est limpide et sans détour. Les plus grands hommes de Dieu de la Bible, hommes et femmes de Dieu, de la Bible, ont souffert et ont succombé alors qu'ils se sont laissés aller à l'isolement, alors qu'ils se sont isolés, ont été en confinement prolongé. La Bible est remplie d'histoires très, très, très transparentes, très directes sur les plus grands. Ne pensez jamais que vous êtes au-dessus de ça, que l'attrait trompeur du péché ne peut pas vous atteindre. Abraham était le père, appelé le père de la foi. Mais dans son moment d'isolement, il a bousillé, il a brisé ses vœux, a traité son épouse d'une façon, a agi d'une manière qui a déchiré son mariage, déchiré sa relation avec son épouse. Moïse était appelé l'ami de Dieu. Mais dans un moment d'isolement, seul, son tempérament colérique, son tempérament intempestif, impulsif a pris le dessus. Et il a, au début de sa vie et à la fin de sa vie, c'est l'isolement et la colère, encore une fois, qui n'est sans encouragement. La colère qui l'a amené à même manquer une portion de la terre promise que Dieu avait pour lui. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais lorsqu'il avait Jonathan, lorsqu'il avait cet encouragement, il abattait les géants et bâtissait le royaume. Lorsqu'il s'est isolé à laisser partir les autres au combat, il s'est isolé ses pulsions sexuelles hors de la main, de la couverture et de l'encouragement, des forces de Dieu, l'encouragement des gens autour de lui l'ont amené à une pensée, à un adultère, au meurtre qui est venu déchirer sa maison, et l'épée n'a plus jamais quitté sa maison. Élie, le prophète de Dieu, qui avait appelé le feu du ciel, avait vu des victoires hallucinantes dans le chapitre suivant. Lorsqu'il est isolé sous un arbre, une menace de l'extérieur l'amène à un point de découragement où il demande la mort. Jean-Baptiste, Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand que lui. Personne ne connaissait qui était Jésus plus que Jean. Jean-Baptiste avait été relié prophétiquement avec Jésus-Christ, était celui qui avait dit « Voici l'agneau de Dieu. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il va vous baptiser du Saint-Esprit. Il faut que je diminue, qu'il grandisse. » Personne ne savait qui était Jésus comme Jean. Mais lorsqu'il est isolé dans son donjon, dans sa prison, l'Évangile nous dit qu'il a envoyé des messagers pour demander à Jésus « Est-ce que c'est toi ou il faut en attendre un autre? » L'isolement multiplie toutes ces tares, toutes ces fautes, toutes ces tentations, toutes ces possibilités de perdre la destinée de Dieu. C'est pourquoi j'ai besoin de quelqu'un pour m'encourager dans mes efforts. Même que, dans mes efforts comme homme, dans mes efforts comme mari, dans mes efforts comme père, comme parent, dans mes efforts, dans les bonnes décisions que j'ai prises, des disciplines de vie. J'ai besoin d'encouragement dans mon intégrité, dans mes efforts que je sois marié ou que je sois célibataire, dans mes efforts pour marcher avec Dieu, dans mes efforts pour être intègre, dans mes efforts pour terminer mes études, dans mes efforts pour être fidèle, pour être droit, dans mes efforts contre mon passé qui essaie de revenir me reprendre, dans mes efforts d'aimer, de pardonner, de marcher avec Dieu, de le servir, d'accomplir, d'être l'homme, la femme que Dieu que je sois. J'ai besoin de quelqu'un pour m'encourager dans mes efforts face à l'ennemi de mon âme. Et c'est la dernière pensée. Jésus, dans ce discours, cette conversation que l'Esprit de Dieu nous donne à travers, juste avant, le jeudi soir, juste avant la croix et la résurrection, son dernier message ultime à ses disciples, leur donne ces trois clés. Pour vaincre ton pire ennemi, j'ai besoin de quelqu'un pour m'entourer quand je traverse une épreuve. J'ai besoin de quelqu'un pour m'encourager dans mes efforts et je termine. J'ai besoin de quelqu'un parce que le combat est déjà engagé et que l'enjeu est spirituel. Les groupes Nouvelle Vie, ce n'est pas quelque chose de social. C'est quelque chose de profondément spirituel. C'est hallucinant que dans ce Jean 13, 14, 15, 16 et 17, alors qu'il leur donne cet enseignement, alors que Jésus les appelle à des relations plus profondes, authentiques, vraies, sincères, et il les appelle à des amitiés qui sont spirituelles, à connaître, connecter, contribuer, et à être vigilants ça, concernant leur connexion, et à quel point c'est important quand nous avons besoin les uns des autres, Jésus les met en garde tout au long des chapitres contre l'action de l'ennemi, contre le combat qui est spirituel, que c'est un autre niveau que juste le niveau humain. Dans Jean 13, je vous donne quelques extraits de la conversation, pendant de la narration de ce souper historique. Jean 13, 2, pendant le dîner, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote. J'ai besoin de quelqu'un dans le combat, parce que le combat est déjà engagé et que l'enjeu est spirituel et parce que l'ennemi met encore des choses sur nos cœurs. Il y a encore un menteur, il y a encore un accusateur, il y a encore un trompeur, il y a encore un voleur. Jean 13, 27, toujours dans la même conversation. Alors que Jésus enseigne, Satan entra en Judas Iscariote. Je vous en supplie, ne tombez pas dans le piège des débats stériles sur les conflits théologiques reliés à la démonologie. Est-ce que le chrétien peut, est-ce qu'il est possédé, est-ce qu'il est démonisé, est-ce qu'il entre, est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que c'est permanent, est-ce que l'ennemi peut, est-ce que je peux dire ceci? Ne réduis pas ça au débat. Nous avons besoin les uns des autres parce que l'ennemi entre encore. L'ennemi ment encore. L'ennemi vole encore. L'ennemi aveugle encore. L'ennemi décourage encore. Il endurcit encore. Appartenir à un groupe, d'avoir des relations spirituelles n'est pas quelque chose qui est un « nice to have ». Quelque chose de plus, un bonus, une dynamique humaine, une option intéressante ou juste quelque chose de supplémentaire et optionnel. Dans la pensée de Dieu, c'est l'essentiel parce que le combat est spirituel. On ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre des dominations dans les lieux célestes. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Par la vertu de Dieu, pour abattre des forteresses. Nous avons besoin les uns des autres pour abattre ces forteresses. Sois alerte, sois sobre. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Vous pouvez regarder 50 documentaires du National Geographic, puis à chaque fois voir le lion rugissant qui attend des heures pour seulement pour sa proie qui devient vulnérable lorsqu'elle se détache, lorsqu'elle s'isole, lorsqu'elle n'est plus dans le ensemble. Jésus n'a jamais promis de nous ou prier pour qu'on soit enlevé du monde, mais qu'à travers le ensemble, on peut s'élever au-dessus des attaques de l'ennemi. Jean, toujours dans la même conversation, Jean 14. Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder de l'ennemi. Père, je prie afin qu'ils soient un, comme Père, tu es en moi et moi, je suis en toi. La vie chrétienne selon Jésus, ce n'est pas une vie isolée, de bunker, où nous maudissons et méprisons le monde extérieur. Non, dans le ensemble, nous sommes fortifiés pour nous tenir au milieu de ce monde. C'est lorsque je suis dans le ensemble que l'ennemi ne trouve rien en moi et que le prince de paix me donne victoire à chaque jour sur le prince de ce monde. Toujours la même conversation. Et c'est le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père envoie en mon nom, dit Jésus. Le prince de ce monde vient. Il y a une réalité au combat spirituel, mais il n'a rien trouvé en moi qui lui appartienne. J'ai besoin de l'un et de l'autre. J'ai besoin de quelqu'un dans ma vie spirituellement, pas seulement dans mes épreuves, parce que j'ai besoin d'encouragement, mais pour me protéger, comme une protection spirituelle. La même conversation, vers la fin de la conversation du souper, Jésus leur dira, je vous ai parlé ainsi, je vous ai enseigné tout ça, afin qu'il n'y ait parmi vous aucune cause de chute, de scandale, de scandalizo. Ce qui fait en sorte qu'une personne chute, s'éloigne, tombe, s'endurcit, devient une déception pour elle-même et pour d'autres, et cause d'autres personnes de s'éloigner de Dieu. Il y a une clé du combat spirituel de protection dans le ensemble. Ecclésiaste 4, 12. Une personne qui se tient seule peut être attaquée et vaincue. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, tu traverses quelque chose, un ennemi en ce moment, ton ennemi qui est dans cette sphère-là de ta vie à semble dominer, deux ensemble peuvent lui résister et renverser l'ennemi, car la corde a trois brins. Moi, quelqu'un et Dieu ne se rompt pas facilement. J'étais aux États-Unis récemment, il y avait dans un quartier, il y avait toutes ces pancartes de « Neighborhood Watch » parce que c'est un programme de protection communautaire. Des gens qui s'engagent envers les autres pour protéger leur propriété matérielle. Je méditais ce message que je me prêtais à vous partager. Je disais, Seigneur, tu as un programme de protection de notre âme, protection spirituelle, protection les uns des autres. Lorsque quelque chose est trop fort pour moi en ce moment, avec toi et avec quelqu'un avec moi, la corde à trois brins ne se brise pas facilement. J'arrive à la fin. Après avoir consacré son dernier repas, sa dernière conversation avec ses disciples et les convaincre de l'importance de connaître, connecter et contribuer, avec ces mots, « Heureux allez-vous être, si vous connaissez ceci et si vous le pratiquez », là-dessus, Jésus prie pour eux et après ça, il nous modèle lui-même, nous rappelle dans son humanité, dans son incarnation, que lui aussi a eu l'humilité de reconnaître ses besoins des autres et de face à ce qui était devant lui, c'est le dernier. Il passe directement du souper à prier pour ses disciples et là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, le lieu du pressoir, de la pression qu'on traverse tous. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez et priez avec moi. » Jésus, dans son humanité, a eu cette humilité. Il nous a donné ce modèle. Est-ce que je vais, comme Jésus, dire, ou oser dire, dans mes saisons à moi, dans mes épreuves à moi, dans ce que je traverse, quand j'ai besoin d'encouragement, quand j'ai besoin d'être entouré dans mon épreuve, mais aussi pour être protégé de mon ennemi. Venez, j'ai besoin d'aide. Viens prier avec moi. Le royaume de Dieu, c'est des relations. Des photos qui vont apparaître en terminant de personnes qui sont importantes dans ma vie. Le pasteur Samuel Lecomte, qui est mon père spirituel. Le pasteur Marc Lecomte, qui est mon frère spirituel. 40 ans d'amitié, de combat ensemble. On est là dans la vie l'un de l'autre avec nos enfants, dans chaque étape de la vie, enfant, adolescent, adulte, combat, bâtir le royaume de Dieu. 40 ans d'amitié. Cet après-midi, juste avant que je vienne pour prêcher, parce que Marc est venu me faire signer quelque chose, et il m'a dit ces mots. You doing okay? Ça va bien? Oui, ça va. Praying for you. Je prie pour toi. Ça fait 40 ans qu'il me dit ça. Est-ce que ça va? Et je sais qu'il le demande sincèrement. Il y a des fois où j'ai fermé la porte et j'ai raconté ce qui n'allait pas. Et vice-versa. Et praying for you. Et je sais qu'il prie vraiment pour moi. Et lorsque je regarde ces photos de pasteur Sam Lecomte, Marc Lecomte et moi, une ancienne lorsqu'on était dans nos... On est parti pour le collège biblique, la plus récente qui est là. Je pense à un moment, vous savez, pasteur Sam a sauvé ma vie en me présentant l'Évangile et a ouvert le royaume de Dieu dans ma vie. Mais moi, j'ai déjà sauvé la vie de pasteur Sam. Nous étions ensemble en Côte d'Ivoire, après des semaines de prédication, et on avait une journée ou un après-midi même de congé, et on est allé à une plage en Côte d'Ivoire magnifique, juste pasteur Sam et moi, on était là en mission. Et le pasteur, très responsable, nous avait dit, « Attention, n'allez pas nager loin, le ressac est complètement hallucinant, c'est très, très dangereux, il y a plusieurs personnes qui se sont noyées. » Mais les Québécois en Côte d'Ivoire, on connaît plus que les Ivoiriens, alors après un certain temps, il faisait tellement chaud, c'était tellement beau, on s'est lancé pour nous aller de plus en plus loin. Et après un certain moment, moi, je nageais et je me suis tourné et j'ai vu pasteur Sam, il était plus loin au large que moi, avec une terreur sur son visage. Puis, il m'a raconté par la suite que ça faisait longtemps qu'il essayait de nager pour revenir vers le parasol qu'on avait. Puis, il se voyait avec le ressac toujours s'éloigner de plus en plus et emporté vers la mer. Et à ce moment-là, pasteur Sam était une masse d'hommes, un homme beaucoup plus fort que moi, beaucoup plus, un costaud. Mais dans ce moment-là, il était dans les vagues qui le submergeaient. Claude, help me, help me. Et c'est Dieu qui a permis tout ça, qui m'a aidé. Mais j'ai été nagé en arrière de lui. Et permettez-moi d'être direct, je me mettais en arrière de lui et je le poussais. Le fessier et le reste, je le poussais vers l'avant, le poussais vers le sol. Puis après un certain temps, grâce à Dieu, il a réussi à mettre son pied au sol, à « find his footing », retrouver le sol. Une fois qu'il a retrouvé le sol, moi, je nageais vers lui, on revenait au sol épuisé. Et lorsqu'on avait de l'eau encore jusqu'à la taille, je suis venu pour le lâcher. Il était tellement étourdi, tellement épuisé qu'il y a eu un réflexe. Il dit « Non, don't let me go! » Vous êtes pasteur Claude, qu'est-ce que ça a à voir avec ton message sur le besoin qu'on a les uns les autres? Pour moi, ça a tout à voir parce qu'il n'y a rien qui illustre plus magnifiquement la vision de nos groupes. Ce petit moment sur la plage en Côte d'Ivoire m'a rappelé pour toujours que même les plus forts ont besoin d'une poussée dans certains moments où les vagues les submergent. Et même ceux qui sont moins forts et eux-mêmes dans la tempête, dans les vagues, peuvent faire une différence. Spirituellement, tu peux faire une différence dans la vie de quelqu'un. Et quelle que soit la force que tu penses avoir, il va y avoir des moments où tu vas avoir besoin de quelqu'un pour te donner une poussée. Les vagues sont trop hautes. Quelqu'un pour te permettre de retrouver ta marche. Quelqu'un pour venir laver tes pieds. Quelqu'un pour venir aider ton cœur qui est en mauvais état en ce moment. Alors aujourd'hui, on prie ensemble. Et nous disons, Seigneur, je viens à toi aujourd'hui. Et je te demande, Seigneur, de me ramener à la simplicité de connaître, de connecter et de contribuer à la vie les uns les autres. Je ne veux pas de cette marche chrétienne en superficialité où je dis au Fils de Dieu, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Où je ne permets à personne d'entrer dans ma vie pour venir faire une œuvre, ton œuvre à toi en profondeur dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un pour guérir mon cœur, pour contribuer, pour aider. Il y a une saison, je traverse une saison en ce moment où mon cœur a besoin d'être aidé, d'être colmaté, d'être encouragé. Seigneur, je traverse une épreuve et je prie pour ceux qui traversent des épreuves en ce moment, qu'ils puissent ouvrir leur vie, qu'on puisse être entourant les uns des autres à travers l'épreuve. Et Seigneur Dieu, malheur à celui qui tombe et qui est seul, mais celui qui tombe et qui est relevé par un autre, il trouvera une richesse. Et j'interpelle par l'Esprit aujourd'hui ceux qui sont chrétiens de longue date, ceux qui disent « j'ai pas besoin de ça ». Oui, mais nous avons besoin de toi. Quelqu'un a besoin de toi. Quelqu'un a besoin que toi, tu offres ta vie, ton témoignage, ton expérience, ton aide, ton encouragement dans les efforts que chacun nous essayons d'offrir à Dieu et avancer avec lui. Et Seigneur, parce que l'ennemi est réel, parce que l'ennemi est présent, parce que le combat est spirituel, nous ouvrons nos vies les uns aux autres. Et je prie que cette prochaine saison de nouvelle vie en groupe soit surnaturelle, miraculeuse, et que personne ne traverse son épreuve seul, et que chacun puisse découvrir la richesse du ensemble. Dans le nom de Jésus, amen et amen. Allez vite sur nouvellevie.com/groupe et venez vous joindre à nous. Nous allons traverser ensemble et vivre des choses extraordinaires. Que le Seigneur vous bénisse.